Moi, j'ai trouvé intéressant votre approche. Alors, vous l'avez fait provoque exprès. Je crois qu'on en a besoin aussi dans la culture. Je trouve intéressant que vous mettiez un petit peu la focale sur la différence entre un artiste qui est là dans une expertise et qui n'est pas un pédago. Où nous, avec la collègue, on essaye de le dire quand même aux équipes où c'est pas clair. Ils attendent quelque part d'un artiste qui est cette forme comme ça de pédagogie innée, qui est déjà pas très claire parfois chez les enseignants. Et je pense que ça fait partie de quelque chose qui manque en termes de formation, de dire voilà, sur un projet artistique, il y a des partis pris qui vont être différents, d'où l'intérêt aussi de passer par la DAG, de passer aussi par d'autres experts, comme certains conseillers qui ont déjà pointé du doigt certains artistes qui sont, ça n'a rien à voir avec leurs compétences artistiques, mais certains sont plus proches avec des maternelles, avec des primaires, avec certaines techniques. Et c'est important, ce travail avec les deux. Je trouvais intéressant que vous puissiez le souligner. Pas de questions.
Mais par contre, je veux bien commenter. Là aussi, ça n'a pas été inné. C'est-à-dire que 5 ans de formatrice comme éducation au développement durable, je me suis coltinée toutes les associations écologiques possibles, imaginables. Hein, donc le partenaire qui veut s'implanter dans l'école et qui veut faire passer un message, j'ai appris à le gérer. Donc j'ai transposé ça avec les artistes, même si la problématique est totalement différente. Mais c'est vrai que souvent les artistes sont démunis eux-mêmes parce qu'ils ont face à eux des collègues qui disent « ben voilà, qu'est-ce que vous faites ?» Mais il faut bien y avoir réfléchi avant. Hein, et en Savoie, alors je ne sais pas du tout comment c'est dans les autres départements, mais en Savoie, quand on est inscrit dans un module, c'est vraiment prévu qu'il y a des temps de rencontre avec les artistes et les enseignants. On passe une journée ensemble, ils nous parlent de leur pratique artistique, on leur parle de ce que l'on veut faire avec nos élèves, on construit ensemble. Et c'est l'incontournable, parce que sinon, de toute façon, ça ne marche pas, quoi. Et là, maintenant, ils reviennent régulièrement, les artistes, parce que, bon, tant qu'à faire, ils veulent que ce soit à peu près correct, quoi. Et donc, les conseils qu'ils apportent aux élèves, ce sont uniquement des conseils liés à la gestuelle, à la position du corps, à le positionnement de la voix sur scène, l'exagération des gestes, ce que nous, on serait tout à fait incapable de faire.
Donc, moi, j'ai été surprise dans la répartition, dans le tableau dans lequel il y avait les disciplines, les compétences, c'est pas très bien exactement. En fait, on avait une discipline lettres qui était uniquement destinée à la littérature. Et après, on avait une scission des différentes activités qui sont à la fois autour des langages, autour des lettres et autour du français, parce que moi, je suis pas prof de lettres, mais de français. On avait toute une série de, toute une scission. C'est-à-dire que la communication, c'était de l'ordre de l'EMI. Le jugement, formation jugement, etc., au goût, c'était de l'ordre de l'EMC, ou la sensibilité. Or, tout ça, c'est de l'ordre du français, mais que le français ne fait pas tout seul, qu'il partage avec les autres disciplines. Et je crois que là, il y a un danger réel à saucissonner par discipline, alors que ce ne sont pas des disciplines qui sont là. C'est justement de l'interdisciplinaire qui se met en place, et on devrait questionner quels sont les langages qui se mettent en place à chaque fois.
Alors oui, je suis bien d'accord, mais on revient toujours au même problème, c'est-à-dire que moi, quand je vais voir mes collègues, par exemple, typiquement ma collègue de lettres qui, pour la première fois cette année, c'est la première fois qu'on réussit à avoir un collègue de lettres dans un projet. Quand je vais les voir, première question qu'ils me posent, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ma discipline là ? Mon programme, je vais le mettre où ? Donc il faut bien que je leur donne des cases qui les rassurent. Même si moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, les langages, on est tous concernés. Moi, la première, j'ai été prof de lettres en lycée professionnel, voici quelques années. Mais il faut que les gens soient rassurés, il faut les accompagner. Et la première question, c'est ça. Qu'est-ce que je fais de mon programme dans ton truc, là ? Surtout si je le fais bénévole et que je viens une heure le jeudi après-midi où je pourrais être ailleurs.
Alors, je suis surprise quand même parce que, en fait, les profs de français sont extrêmement nombreux à monter des projets partout. Quand on regarde, même au collège, hein, alors, si on parle du lycée professionnel, les profs de français, ils sont forcément dans tous les projets. Mais au collège, les profs de français mettent aussi en place beaucoup de projets. Alors, je me dis, pourquoi il y a une résistance de ces profs-là. Voilà, c'est une résistance qui t'a questionné probablement. Pourquoi ces profs-là sont résistants?
Oui.
Est-ce que c'est, ça tient à quelques personnes de profs qui, ça peut arriver, hein. Mais est-ce que ça tient aussi à la manière dont le projet est organisé et mené, qui justement ne permet pas de questionner l'ensemble d'une discipline qui est d'une discipline qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas une discipline, mais qui est totalement on disait autrefois au carrefour des disciplines ou interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Bon, j'ai pas de réponse, hein. C'est simplement des questions.
Pour mon établissement, j'ai la réponse. C'est pas pour rien qu'une jeune collègue qui est arrivée est intéressée. C'est-à-dire que mes collègues me répondent. Bon, je suis désolée, hein, mais j'ai pas de chance. Moi, j'ai été recrutée pour enseigner le COD. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de projets, parce que moi-même, dans les groupes de formateurs, je travaille avec beaucoup de profs de lettres et tout, mais dans mon établissement, c'est un petit établissement et qu'il y a peu de renouvellement. Donc, voilà. Et puis chaque année, je me dis, cette année, on va y arriver.
Oui, on a envie de croire que ce sont des exceptions, mais effectivement, donc là, ça tombe à des questions de personnes. Ouais. Ouais, on peut pas généraliser. Hein.
Moi, j'aurais une question. Je suis là. Sur l'évaluation, en fait, dans le tableau, effectivement, on avait les indicateurs, les domaines, les compétences, les indicateurs. Je pense avoir mal compris la dernière colonne, en fait. Est-ce qu'à la fin, il y a une évaluation de l'élève avec une note chiffrée et un cumul de points? D'accord.
Oui, ah ben, de toute façon.
J'ai pas mal compris.
Non, vous n'avez pas mal compris. À partir du moment où on reste dans un système qui est encore un système où on met des notes,
Mais est-on obligé?
Non. Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. On n'est pas obligé de mettre des notes. Dans le cas de ici, ce sont des élèves de troisième qui s'investissent beaucoup, qui travaillent beaucoup. Et la raison pour laquelle on met une note, c'est qu'ils ont une bonne note qui va compter dans leur contrôle continu et qui leur fera un petit plus au brevet des collèges. Bon, écoutez, ça me semble tout à fait acceptable pour les gamins. Je peux vous dire qu'ils sont contents en fin d'année, hein, quand ils ont un 20 qui apparaît sur le bulletin ou au deuxième trimestre, et que dans le contrôle continu, ça fait un petit boost. Cette année, dans le groupe, on a un garçon qui va aller faire un CAP maçon l'année prochaine, qui ne sait pas s'il aura son brevet des collèges. Ça sera peut-être la seule bonne note qu'il aura de toute sa scolarité. Écoutez, tant mieux, hein. Mais même si je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faudrait qu'il y en a qui ne sont pas notés. Quand on fait les journées entières sur l'histoire des arts, c'est pas noté.
Oui, parce que moi, ce qui me dérange quand même, c'est que vous parlez du socle au départ, en parlant de compétences. On arrive à une note, en fait, qui est un mélange de plein de compétences évaluées. Alors, il y a un mix entre des compétences, des bons.
Oui, mais bien sûr, je l'assume complètement. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on aurait voulu que... moi, quand j'ai appris qu'on confirmait que les notes restaient, j'ai été la première déçue. Mais après, je suis pas ministre et puis je fais avec ce qu'on me donne, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je voudrais pouvoir être uniquement sur des curseurs qu'on déplace. J'ai des évaluations avec mes élèves, avec des curseurs, sur une échelle. Mais à l'arrivée, les parents, j'entendais aussi tout à l'heure la question des collègues que j'ai très bien entendue, sur les parents. C'est-à-dire que souvent on me dit, mais elles sont bizarres, vos traces écrites. Typiquement, une caractéristique comme celle que je vous ai montrée, pour les parents, c'est pas une trace écrite. Alors si en plus je leur montre un curseur pour leur dire, votre enfant, il est là, c'est bon, quoi. C'est le goudron et les plumes, hein.
Bonjour, le collège La Garenne en Isère, et nous avons tenté de trouver une solution pour évaluer ces compétences transversales, donc on les appelle comme ça, qui touchent à la fois le français et d'autres matières, et donc le logiciel qu'on utilise, c'est le logiciel Sacoche, qui nous permet justement d'évaluer ces compétences transversales. Donc nous n'arrivons pas pour le moment à généraliser cette approche par les compétences, mais en tous les cas, sur tout le niveau de sixième, nous utilisons Sacoche et les compétences, et ce sont nos collègues d'art, musique et art plastique, qui ont commencé à évaluer uniquement par compétences, et eux ont évalué sur tous les niveaux. Nous, en français, on évalue en sixième et on voulait passer aussi au niveau cinquième, mais vu la résistance de certains collègues, et pas seulement les collègues de français, hein, les collègues d'histoire-géo aussi ont beaucoup de mal à passer aux compétences, eh bien, on est resté sur le niveau sixième. Mais il est pas possible d'avoir des compétences transversales, et aussi grâce à ce logiciel, on peut passer assez facilement donc de l'évaluation d'une compétence à une note chiffrée si on en a envie, puisque bon, ça peut être un système assez simple. Donc nous avons mis en place ce système, mais la généralisation est lente et difficile, voilà.
Nous, sa coche est implantée dans l'établissement, mais les collègues veulent pas en entendre parler. Même des collègues qui sont engagés dans ce type de démarche, hein.
Je voulais juste vous dire mon malaise, parce que j'ai, en fait, face à votre schéma heuristique, j'ai perdu mon latin, ou mon arabe, ou je sais pas quoi, mais j'ai pas bien suivi ce que vous avez. Est-ce que, en fait, j'ai marqué comme titre outil d'aide à la construction de projets, mais là, ça m'a pas du tout aidé. J'avais l'impression plutôt de papillonner vers plein de trucs à la fois, et en plus, j'arrivais pas à tout lire. De toute façon, c'était illisible pour nous d'ici. Donc, j'ai pas bien compris. Et d'une part, d'autre part, je voulais vous questionner sur le choix du génocide. D'abord, il y en a beaucoup. Pourquoi celui-là et pas un autre? Et est-ce que dans une classe, par exemple, où il y a beaucoup de Turcs et tout ça, la priorité n'est pas que tous les musulmans ne sont pas arabes et que tous les arabes ne sont pas musulmans, parce que je trouve que j'ai toujours trouvé en tant qu'ex-prof d'arabe très pertinente et qui apportait...
Ça, c'est quelque chose qu'on fait en cinquième.
Oui, oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, c'est ce qui m'a choqué, c'est que vous avez dit... il fallait mettre le pied dans le plat, il y avait beaucoup de Turcs, alors autant y aller. Oui, les jeunes, les pauvres, moi je les imagine, ils y sont pour rien. Je veux dire,
heureusement
je sais qu'il y a beaucoup de profs d'histoire géo qui évacuent carrément toutes les questions du religieux, tout ça, ils disent ça va faire machin, et si on parle d'Israël et des Palestiniens et tout ça, mais c'est quand même des génocides. Pourquoi pas le Rwanda, par exemple, parce qu'en France, c'est passé c'est récent, enfin bref, je sais pas, mais ça c'est une question d'humeur, quoi, sur le moment. Le schéma heuristique, pour moi, c'est pas ça, je vois pas le caractère opératoire, hein. Je me souviens des choses que je faisais sur la gestion mentale avec les gens de la Garandrie et compagnie, en partant d'un truc, en voyant tout d'un sujet au milieu, et en voyant toutes les ramifications et tout ça. Là, j'ai pas compris les histoires de la transversalité par rapport à ça, et le tableau style cadre européen du référentiel pour le machin, non plus. Donc, en fait, je ne vois pas où est l'outil. Je suis désolée.
Oui, non, mais on est là pour discuter. Moi, justement, ce que j'attends aussi, c'est les commentaires. Parce que, comme je vous dis, c'est des outils qui évoluent depuis des années et qui évolueront encore. Alors, pour le génocide des Arméniens, bon, déjà, il faut savoir que c'est au programme. C'est-à-dire que dans le programme d'histoire de 3e, il y a le génocide des Arméniens, que beaucoup d'enseignants évacuent. Et moi, je travaille beaucoup avec mes élèves sur l'argumentation, sur le regard critique, sur la prise de position, sur le dilemme moral. Et justement parce que, avec les élèves turcs en particulier, on avait eu quelques grandes discussions au moment de la minute de silence. Alors non pas sur la minute de silence en tant que telle, mais parce qu'ils considéraient que on parlait beaucoup de ce qui se passait en France et pas assez des attentats qui avaient lieu en Turquie. Donc du coup, on s'était dit, il faut qu'on mette toutes les choses sur la table et que le génocide... Non, c'est-à-dire que l'idée qu'il fallait qu'à un moment, tout le monde s'exprime. Non, non. L'idée, c'est qu'à un moment, il faut que tout le monde s'exprime. Dans le cas du génocide des Arméniens, mes élèves turcs se sont exprimés sur ce qu'ils en pensaient. Et vous savez qu'en Turquie aussi, la position vis-à-vis du génocide des Arméniens a beaucoup évolué, puisque le fait qu'il y ait eu des massacres n'est absolument plus contesté. C'est le terme de génocide qui l'est. Donc on a beaucoup travaillé avec les élèves sur ce que c'est qu'une définition juridique. Et ils l'ont très bien compris. Je suppose qu'ils ont gardé leurs opinions. Mon idée, c'était pas de leur faire changer d'opinion, hein. mais c'était aussi que on travaille sur des questions socialement vives. Je pense que l'école est là pour aborder toutes les thématiques, en particulier les questions socialement vives. Dans le cadre de ce projet, parce qu'on nous a amené le projet, hein, les artistes sont venus avec le projet. Beaucoup d'établissements ont dit non, nous on n'en veut pas parce qu'on a des Turcs. Nous on a dit nous on en veut parce qu'on a des Turcs, parce que dans notre établissement, justement, on a peur d'aucun sujet et on veut absolument que les élèves discutent, que les élèves échangent, que les élèves se construisent une pensée critique. Et ça peut pas se faire en mettant les sujets qui fâchent sous le tapis. Donc là, il y avait un sujet qui fâche, donc on a pris le sujet qui fâche. Alors, si on nous propose quelque chose sur le génocide du Rwanda, à plus forte raison, parce que justement la France est concernée et qu'il y a moyen de travailler, ça sera le génocide du Rwanda. Mais moi, pour moi, ce qui comptait vraiment, hein, c'est cette idée que on est là pour éduquer à la complexité, on est là pour éduquer à l'argumentation, on est là pour éduquer au sens critique, et qu'il y a des outils, il y a des objets qui le permettent. Et que il n'est pas question qu'en tant que prof d'histoire géo, je me refuse d'aborder certaines thématiques. Voilà. Oui, non, non, mais je le précise. Pourquoi cet engagement? Oui, ça, le lien avec une de silence, parce que ça a été un sujet qui a mobilisé nos élèves turcs. Ah non, mais c'était pas la question de prendre par un autre biais. C'était une question que les élèves turcs. Non, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut se décentrer. Je pense qu'avec les élèves, il faut se décentrer et que être sur le vif de l'actualité, quand les gens sont dans l'émotion, dans le pathos, avec des élèves, c'est pas le meilleur moment. Et donc, quand je suis allée voir mes élèves turcs et je discutais avec eux, ils m'ont dit mais nous, on a l'impression qu'on nous laisse pas de place, qu'on n'a pas le droit de discuter, qu'on n'a pas le droit de parler des sujets qui nous tiennent à cœur ou quoi que ce soit. Je l'ai enregistré. J'ai dit bon, ben, on en parlera. Après, bon, je vais pas rentrer dans tout ce que je fais avec ces élèves. On a fait ce qu'on appelle un dilemme moral avec les élèves en question. Ça a été très, très intéressant sous forme d'un débat silencieux. Mais à mon sens, c'était pas le moment. Le prof, il est là pour construire des choses.
Alors, si vous permettez simplement... Non, j'hésite à intervenir pour des raisons de... Parce qu'on est au cœur quand même des questions qui nous occupent. Mais on ne peut pas consacrer l'après-midi à un échange entre vous deux. Donc, il y a des moments qui sont des moments collectifs. Il y a des moments qui pourront être pris. Non, mais je vous en prie, madame. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que la discussion ne sorte pas des limites dans lesquelles elle devrait rester, même si on est là au cœur des problèmes qui sont les questions qu'on aborde à travers ça, sont des questions tout à fait centrales, des questions de valeur, des questions d'identité, d'engagement. On voit bien que c'est très lourd et ça nous amène à réfléchir sur ce que nous faisons avec les élèves, consciemment ou inconsciemment. Mais je voudrais qu'on laisse la place, il y a des ateliers où on peut reprendre cette discussion, en laissant la place quand même à d'autres. Il y a des moments aussi où on peut discuter en cercle plus réduit autour de ça. Voilà. Dominique ?
Oui. Moi, j'étais un petit peu à l'opposé sur la première partie de votre intervention, parce qu'un beau schéma comme ça, c'est confortable, ça clarifie les choses, et peut-être ça permet de voir ce qui manque. C'est-à-dire qu'on voit, et effectivement, comme Viviane l'a dit, on voit bien qu'il y a une zone intermédiaire là autour des langages qui n'est pas travaillé. Voilà. Mais donc du coup, j'ai bien compris et je trouve intéressant la démarche qui est de fabriquer un outil pour mettre en mouvement éventuellement une équipe, pour éventuellement la rassurer, pour éventuellement lui dire mais si, tu auras ta place, etc. Ok, donc ça, j'ai bien compris la démarche et je pense qu'elle est intéressante et probablement à réutiliser parce qu'elle est relativement claire, même s'il faut arranger les choses. Mais la deuxième question que je me pose, moi, mais c'est pas traité, c'est en quoi de tels projets ont fait évoluer les enseignants. Ça veut dire, c'est les ayant fait, par commande, par nécessité, aujourd'hui par nécessité parce que c'est dans les programmes et qu'on va être obligé, est-ce que ça va modifier leur représentation de leur discipline? Est-ce que ça va modifier leur représentation des langages dans leur discipline? Est-ce que ça va modifier leur représentation de qu'est-ce que c'est que apprendre ensemble pour faire une tâche extrêmement compliquée qu'on ne peut pas faire tout seul? Donc il me semble que la question de l'évaluation, donc l'évaluation des élèves, moi vous savez, si vous m'écoutez, je suis très très sceptique sur les compétences, mais bon, on fait avec. Mais la question, c'est l'évaluation des enseignants après de tels projets, c'est-à-dire comment ils se perçoivent, comment ils ont perçu le dispositif, qu'est-ce que ça a apporté comme plus aux élèves, quels sont les problèmes, on en voit un tout de suite qui est posé, quels sont les problèmes fondamentaux, idéologiques qui sont posés et qu'il va falloir discuter, comment on les résout. Moi, c'est ma question. Alors, peut-être que là, du coup, avec votre expérience, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Est-ce que ça a fait bouger? Est-ce que c'est tous les jours les mêmes qui font les qui sont en équipe? Pourquoi tant reste à l'écart tranquillement? Voilà.
Mais c'est vrai que c'est les vraies questions, parce que c'est toujours les mêmes enseignants. Quand il y a un nouveau prof qui arrive dans l'établissement, j'ai l'impression de lui sauter dessus comme la misère sur le bac clergé du Haut-Languedoc. Pour ce qui est des collègues avec qui je travaille, de toute évidence, ils y trouvent leur compte. Alors nous, on a un outil d'évaluation du projet. En fait, on utilise une technique du Q-sort, c'est-à-dire que tout au long du projet, quand on entend un élève, un partenaire ou même un prof qui dit quelque chose qui nous semble important, on le note. Et puis après, alors ceux qui sont là, ils notent le papier, puis après on récupère tous les papiers, on fait une grande liste de tout ce qui a été dit. Et à partir de cette liste de ce qui a été dit, eh bien on prend le temps de discuter. Qu'est-ce qu'on priorise? Pourquoi on a fait ça à ce moment-là? Bon, ça n'a pas beaucoup, je veux dire, c'est pas scientifique comme évaluation, mais ça permet en tout cas de prendre le temps d'en discuter. Par exemple, le projet de l'an dernier, on a un collègue de techno qui s'est arrêté en cours d'année, qui a dit « moi, je ne peux pas travailler comme ça, j'arrête ». Donc on a beaucoup discuté avec lui, et lui, ce qui lui posait problème, c'était le lâcher prise. C'est-à-dire que de travailler avec des élèves sur des choses dont il avait le sentiment qu'il n'avait pas la maîtrise lui-même, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il maîtrise tout. Il dit « moi, j'y arrive pas, je ne me retrouve pas là-dedans, j'ai besoin du cadre rassurant de mon cours, écrit, grand A, petit 1, machin, ainsi de suite, voilà. Bon. » Il est jeune, j'espère qu'il va évoluer. Mais souvent, quand on fait des projets d'une journée où tous les collègues, finalement, sont impliqués parce que la journée est banalisée, et vu qu'ils sont là, à la fin de la journée, ils disent « Ah, on aimerait bien recommencer ». Mais donc, c'est plutôt positif. Mais ils acceptent de recommencer à condition que le cadre soit très, très près du clé en main. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier? C'est quoi l'objectif? Même s'ils voient en termes de contenu disciplinaire ce qu'ils vont y mettre... Mais ils veulent vraiment que ce soit très, très formaté. Mais c'est vraiment toute la question qui était abordée aussi en fin de matinée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer les représentations des enseignants sur leur pratique professionnelle. Non, avec les élèves, on en construit. C'est-à-dire que les élèves, on leur demande, eux, de construire une caractéristique. Elle n'est pas faite pour les élèves, c'est un outil pour les enseignants. Hein. Mais avec les élèves, justement, de dire, bon, voilà, comment vous voyez... ce qu'on fait.
Parce que moi, je trouve un même intéressant qui voit comment, justement, les enseignants ont réfléchi pour que ça crée un sens général et qu'ils voient aussi ce que l'adulte, le regard que porte l'adulte, parce que ça me paraît quand même assez synthétique et je pense que ça peut être intéressant aussi.
C'est une bonne idée, je vais essayer cette année. Parce que souvent, on leur fait construire, on leur fait noter sur tous les mots qui leur viennent à l'esprit par rapport au travail qu'on a fait. Après, on leur dit de l'écrire sur des petits bouts de papier, et avec les petits bouts de papier, on leur demande de voir comment ils organisent ces petits bouts de papier par rapport à ce qu'ils ont travaillé.
Là, ils peuvent voir même.
Mais à l'arrivée, peut-être après, on peut mettre les deux à côté.
Oui.
La leur et la nôtre.
Là, ils peuvent voir même les problèmes qu'ont eu leurs professeurs, peut-être au départ, au début du projet, pour se mettre d'accord sur ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et...
C'est une très bonne idée.
Puis enseignant au collège Colette à Saint-Priest, et j'avais une question sur une pratique qu'on a déjà dans notre collège. Et qui nous paraît être assez essentiel dans la mise en œuvre de la réforme, c'est le co-enseignement. On est assez frustré de voir que les moyens pour le co-enseignement sont quasiment inexistants. Mais quand vous nous parliez de vos journées autour de l'objet frontière, je me demandais si vous étiez plutôt dans un éclatement de disciplinaire ou si justement vous faisiez du co-enseignement.
On fait du co-enseignement. On fait du co-enseignement. Alors, ça arrive que ça ne soit pas le cas. Parfois, quand c'est vraiment purement disciplinaire. Alors, des fois, ça arrive, il y a un ou une collègue qui vient parce que, à force, on aime bien. En fait, quand on prend l'habitude du co-enseignement, c'est juste pour le plaisir d'être là, de travailler avec les élèves. Ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Mais sinon, c'est pour ça qu'on veut absolument que ce soit en barrette. Parce qu'en fait, des fois, on est cinq avec les élèves.
Oui, parce que souvent on parle du fait que la réforme sera réussie si les enseignants sont heureux dans la réforme. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent faire que les enseignants se sentiront heureux dans la mise en œuvre de la démarche.
Ah bah moi, le co-enseignement, je ferais tout le temps ça si je pouvais. Hein.
Je crois qu'il y a c'est une question qui sera posée de manière intéressante à un chef d'établissement. Qu'est-ce qui s'oppose à comment on rémunère, comment on tient compte et comment les gens... Non, mais il y a aussi le fait de doubler son temps de travail par une présence avec l'autre. On peut considérer qu'une heure à deux, ça vaut peut-être mieux que deux heures à un chacun. Mais enfin,
je voulais savoir, en termes de retour vis-à-vis des élèves, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Le fait de travailler pas seulement en projet, mais en co-animation, en fait, parce que des projets, on peut en avoir chacun, mais quel apport vraiment vis-à-vis des élèves dans la relation enseignant-élève, ça change le fait d'être en co-enseignement, enfin de faire un projet à plusieurs.
Alors, je sais pas dans quel sens ça va. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on est en co-enseignement, on est plus détendu.
Oui, en co-enseignement, mais le fait
que... Non, mais du coup, les élèves...
Qu'ils sachent que les projets sont reliés entre les matières.
Ah oui, alors ça, oui. Je parlais plutôt de l'ambiance pour les élèves. Alors, moi, ça, je peux vous répondre facilement à la question, parce que Canopée est venue les interviewer il y a 15 jours, donc du coup, je me suis fait toute petite, et puis j'ai écouté. Hein, et en fait, on était très contents, parce qu'on leur a pas dit ce qu'il fallait dire, et ils ont dit exactement ce qu'on voulait qu'ils disent. Hein. C'est-à-dire, c'est bien parce que on voit pourquoi on fait ça. C'est bien parce que les profs sont plus sympas que d'habitude. Le côté détendu, quoi. Ouais.
Mais ils donnent du sens. Vraiment,
voilà. Enfin, c'est bien parce qu'on fait des choses. On voit pourquoi on les fait.
D'accord. C'est-à-dire, ils en sont conscients. Quoi.
Oui, ils en sont tout à fait conscients. Hein, surtout ce qu'on a dit, c'est on sait pourquoi on fait des choses. On sait pourquoi on est là. Parce que bon, souvent le problème il est là. Hein, pourquoi on apprend ça? Ben, typiquement, le génocide des Arméniens, les gamins du 21e siècle, on s'en fiche un peu. Hein. Mais,
oui, mais
voilà.
En art plastique, souvent, on a un problème de légitimité d'établissements. Donc, c'est donner du sens, c'est très important. Sans quoi
ah bah oui, alors, comme là, par exemple, tout le travail d'infographie que fait ma collègue en art plastique, les gamins, ils ont bien compris que ça avait pourquoi on utilise cet outil-là en particulier et pourquoi il y a des incitations. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré de compréhension ils ont en fonction des gamins, hein, mais une chose est sûre, c'est que ce qui ressort souvent, c'est que bon, on apprend des choses. Sous-entendu, après, le reste, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein, ils apprennent
pas, mais ça renforce la légitimité des matières, finalement.
Oui.
Plutôt que de les déshabiller, si je peux...
Oui, c'est ce que j'essaye toujours d'expliquer aux collègues. Hein, mais de toutes les matières. Hein. C'est vrai que souvent, quand on est les collègues d'art plastique, ils ont toujours l'impression que...
Qu'on est des illustrateurs des uns et des autres.
Vous savez, les profs de maths, maintenant, ils ont l'impression qu'on les utilise comme des outils. Hein, et pourtant, Dieu sait que les mathématiques, c'était la discipline reine. Je crois que tout le monde est face à ces difficultés. Hein. De manière plus ou moins importante.
Merci.
Je crois simplement aussi qu'il y a un équilibre entre les espaces qui gagnent à être partagés. La question des objets frontières, vraiment l'analyse en retour de cet espace commun, c'est une question tout à fait importante. Qu'est-ce qu'on choisit comme objet? Et ensuite, ce n'est pas une obligation, à mon avis, que de faire fondre. Par contre, c'est vraiment une question intéressante de savoir quels sont les objets qui ont besoin d'un travail croisé, par exemple avec une co-intervention directe, des objets qui se font en écho dans des espaces différents, mais en écho, et puis des objets indépendants qui peuvent rester. Et puis il y a des choses aussi qui n'apparaissaient pas comme communes et qui peuvent l'être. Et puis effectivement, comme chaque fois qu'on prend des décisions, un des mots-clés que Dominique a présenté, c'est la question du dilemme. On est toujours pris dans le fait qu'une décision... 5 minutes après, elle est plus bonne. 5 minutes avant, on la déplace d'un mètre, elle devient différente. On fait des choix, et c'est ce système de choix, d'une certaine manière, que votre schéma représente un petit peu donc, par rapport à un texte linéaire, c'est-à-dire un espace d'équilibre, un jeu de force qu'on essaye d'identifier. Et je crois qu'on est aussi autour de ces questions-là, c'est-à-dire quel est le gain pour les élèves et pour les enseignants de ce type de travail. C'est vrai que ce sont des choses. J'insiste aussi, j'ai fait ce matin, sur la complexité de tout ça. On voit qu'il y a une complexité organisationnelle, une complexité des disciplines. J'ai dit ce matin que ces réflexions-là, par exemple le travail, comme on le fait d'analyse à partir de différents points de vue, ça n'existe nulle part que dans l'espace que vous créez. C'est donc relativement difficile, simplement du point de vue de l'épistémologue. Ce sont des questions, ça a besoin de temps, d'équipes stabilisées. Or, c'est vrai qu'il faut que l'équipe se renouvelle et que ça se diffuse, mais ça... ça pose aussi, on l'a vu, des conditions d'entente et de confiance.
Pour prolonger ce que vous disiez, moi je me pose la question de la pérennité du projet, ou en tout cas, vous expliquez bien que vous construisez au fur et à mesure avec l'équipe. J'ai l'impression que cette façon de travailler repose beaucoup sur une ou peut-être deux personnes. Quid le jour où vous partez ? Parce que justement, il y a des établissements où les personnels se renouvellent en permanence, ou quand ça repose sur une personne, le jour où la personne n'est plus là, il faut tout recommencer ou on repart 10 ans en arrière. Vous avez pensé à votre propre disparition, en fait? C'est ça le but d'un projet, je pense aussi.
C'est une vraie question, parce que vous voyez, à l'origine, on est vraiment deux porteurs, c'est mon collègue d'italien et moi. Mon collègue d'italien risque de ne pas être sur cet établissement l'année prochaine, par exemple. C'est une première question. Après, au fil des années, le groupe s'est étoffé. Donc, moi, je pense que le jour où je disparaîtrai, ça sera peut-être différent, parce que chacun a sa personnalité, sa façon de voir les choses, mais les choses vivront. Par contre, vous touchez un point sensible, c'est-à-dire que, étant donné qu'on fait ça depuis des années, que dans les projets d'une journée, on avait réussi à impliquer beaucoup de collègues et qui, comme je vous le disais, à la fin de chaque journée, vraiment exprimer leur satisfaction de travailler comme ça, je me suis dit, oh là là, la réforme, ça va être du billard, du velours. Ah non, pas du tout. Il y a une résistance d'une violence terrible. La dame a dit tout à l'heure que ça faisait penser à Sarkozy. Moi, dans la salle des profs, on m'appelle Morano. Pas à cause du génocide des Arméniens, mais parce que je suis le suppôt de la réforme. Bon, j'ai de la chance, j'ai des collègues dans un autre établissement, on l'appelle la Gestapo, finalement, Morano. À part le haut à la fin, il y a quand même un peu de distance. Mais oui, c'est les vraies questions. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on dit que cette réforme, elle va mettre 15 ou 20 ans à...
Oui, moi, je voulais revenir sur la question qui était posée sur la capacité des élèves à être conscients, acteurs et réflexifs sur les projets qui sont en développement. Vous avez vu qu'un tout petit extrait ce matin sur les petits de CM1, CM2, qui sont capables d'analyser ce qu'ils font, de comment ils le font, quasiment plus rapidement que des protagonistes en face, parce qu'ils les ont vécu, ils expliquent ça très bien, ils ont compris pourquoi, on est quand même assez sidérés. Et puis c'est pas les quartiers chics de Montpellier. Donc on sous-estime la capacité des élèves à analyser ce qu'ils sont en train de faire. Et je voulais donner l'anecdote suivante qui m'a été rapportée de façon un peu curieuse, un peu sentie par un collègue qui est prof de français histoire en lycée professionnel. Donc là il fait les deux et il a un projet qui mène en 5 heures, je trouve ça magnifique. Sur les grandes découvertes et donc il fait écrire un journal de bord d'un matelot de Christophe Colomb, quelque chose comme ça. Il réussit à faire chercher sur les 5 heures sur internet, donne des ressources, les fait lire et il réussit à ses élèves de CAP2 je crois à faire écrire des textes qui font plus de 2 pages, 2 pages et demie pour certains, et à la sortie en 5 heures. Tout le monde est sidéré quand il nous apporte les textes des élèves, donc effectivement, il y a de quoi être sidéré. Des capacités, des compétences non utilisées et non exploitées des élèves. Et là où l'anecdote est significative, c'est qu'il y a un élève qui passe à côté de lui et qui lui dit « Ça, monsieur, c'est du vrai travail. » Alors, il était très content, évidemment. Mais en même temps, il dit « Ça veut dire que tout le reste, pour eux, c'est pipeau. » Donc en fait, les élèves sont tout à fait capables d'analyser le sens, de donner du sens aux activités qu'on leur propose. Et je pense qu'on sous-estime, comme vous le suggériez, leur capacité à être acteur du projet, à le gérer, à l'ajuster aux besoins. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et le fait de deux disciplines, en lycée professionnel, ils en ont deux, ils en ont trois, même souvent, puisqu'ils vont travailler avec les gens dans les ateliers. Donc forcément, ils sont dans l'obligation de ce travail. Et c'est plutôt un plus. Mmh.